Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Il y a des livres qui peuvent parler aussi s'ils sont fermés.
Pour moi, les livres sont aussi des fantômes, des amis, des rêves aussi.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Encore la guerre et toujours des histoires. C'est tout de suite avec nos deux invités, Andrei Kourkov et Jeroen Olieslagers, depuis la Foire du Livre de Bruxelles. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Je suis un peu ému parce que l'histoire que vous racontez, c'est l'histoire de mon oncle qui a été à Buchenwald. Il avait 15 ans. Il était donc à l'âge où on sait des poésies. Et quand il y avait un mourant ou un agonisant, on lui demandait de venir dire un poème. Quand mon oncle me le racontait, je comprenais à quel point la poésie était l'essentiel.
Ça s'est passé ici l'an dernier. Comment aurions-nous pu oublier ? Comment aurions-nous pu oublier ce moment hautement chargé en émotions ? Nous venions de lire en direct un texte du français Robert Antelme. Robert Antelme, poète, résistant et rescapé du camp de Buchenwald. Après notre intervention, Guy Goffet avait laissé vivre un long silence avant de formuler la réaction que nous venons de réécouter ensemble. Ce moment d'antenne, il s'est imposé à moi vendredi dernier quand j'ai appris le décès de cet immense poète belge Guy Goffet, originaire de Jamoigne dans la commune de Chigny en province de Luxembourg. En 2010, il avait reçu le Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. La poésie qui, selon lui, n'était pas une question de compréhension, mais de sensation, ne résonnant pas. La poésie résonne, aimait-il répéter. Guy Goffet, le cœur sans cesse orienté vers sa quête de beauté. C'est donc ici la dernière fois que j'ai échangé avec lui, ici à la Foire du Livre de Bruxelles, il y a tout juste un an, hors antenne, avec énergie. Guy Goffet continuait à m'énoncer les vertus de la poésie. J'étais captivé. Aujourd'hui, je relis ses livres et depuis une semaine, je me pose une ribambelle de questions. Avait-il prévu de venir ici cette année ? À quoi travaillait-il ces derniers temps ? A-t-il écrit jusqu'au bout ? Que sont les derniers mots d'une œuvre qui s'interrompt ? Et puis plus largement, qu'est-ce qui meurt quand un poète ou un écrivain s'en va ? Et qu'est-ce qui demeure au-delà de son œuvre ?
Dans quel monde on vit ?
Et nous allons voir ce qu'en disent nos invités avec nous ce matin, Andrei Kourkov et Jeroen Olieslagers. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Andrei Kourkov, vous êtes né en 1961, vous vivez à Kiev depuis votre enfance. Vous êtes écrivain, l'écrivain ukrainien le plus traduit dans le monde et vous êtes l'invité d'honneur de cette foire du livre où nous sommes ce matin. C'est en octobre dernier qu'est sorti Le cœur de Kiev, un roman qui nous entraîne dans le Kiev de 1919. C'est la suite d'une trilogie que vous avez démarrée. Jeroen Olieslagers, vous êtes né, vous, en 1967 en Belgique, à Mortsel, c'est dans la province d'Anvers. Vous êtes écrivain, dans vos livres, vous aimez explorer le passé. Dans La femme sauvage, nous sommes avec vous au milieu du XVIe siècle, quelque part entre Anvers et Amsterdam. Qu'est-ce qui meurt quand un écrivain ou un poète meurt ? C'est la première question que j'aimerais vous soumettre, en ajoutant d'abord que cette semaine, la grande écrivaine Maryse Condé est également décédée. Andrei Kourkov, d'abord, qu'est-ce que vous répondez ?
Oui, la voix d'un écrivain est transformée, pas dans un silence, mais dans les livres qui restent. Et bien sûr, parfois les livres ont la vie courte, parfois la vie très longue. Parfois, la voix d'un écrivain est redécouverte dans 30 ans. En tout cas, les écrivains ne meurent pas.
Tant qu'un livre est lu, l'auteur reste en vie, Jeroen Olieslagers ?
Je ne sais pas. Je suis en doute. Je ne sais pas.
Vous l'espérez peut-être ?
Ça me rappelle un peu les mots, le vœu de Hugo Claus, le grand poète. Qui a dit après ma mort peut-être juste une poème d'amour qui reste je sais pas je pense moi l'espoir c'est juste quelques traces en fait quelques marques mais quand j'étais jeune j'avais pas l'ambition d'avoir vraiment une œuvre mais maintenant quand j'ai mon âge là, je pense que, ok, peut-être plus que des traces, mais c'est juste une espoir, en fait.
C'est juste un espoir.
C'est juste un espoir.
Et c'est pas mal une émission de radio qui démarre avec l'espoir
avec
et le doute.
Les doutes,
j'adore
ouais.
ça.
Les écrivains aiment les doutes, en fait.
Vous confirmez, André Kourkov, vive le doute.
Pourquoi pas?
Vous doutez.
C'est doute. Une réponse pleine de doutes. Ouais.
André Kourkov et Yaron Lislagers, vous êtes nos invités cette semaine. Salut Juliette.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Juliette Goudeau, vous êtes journaliste, critique ciné, écrivaine, autrice de lettres. Et vous écrivez à qui cette semaine?
Cette semaine, j'écris à la cinéaste et autrice, puisqu'elle a aussi beaucoup écrit, autrice belge, Chantal Akerman, à l'occasion de la grande exposition qui lui rend hommage actuellement à Beaux-Arts et à Cinémathèque à Bruxelles.
En toutes lettres, c'est dans une petite demi-heure. Et là, ce sont les selfies sonores, vos selfies sonores que nous allons écouter, un son en guise d'autoportrait. Et voici d'abord le vôtre, André Kourkov. Vous vouliez écouter le son des mouettes. Expliquez-nous pourquoi.
Je vis loin de la mer, mais oui. J'adore être auprès de la mer et je ne veux pas habiter près de la mer.
Ah.
Mais je suis toujours fasciné par l'eau d'océan, par les mouettes. Et pour moi, le son des mouettes, c'est le son des voyages, des rêves. Sur les voyages.
Et ça fait 2 ans que vous voyagez beaucoup. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble tout à l'heure. Voici à présent votre selfie sonore à vous, Yaron Lislagers. C'est le chant de bol tibétain que nous écoutons. Ce sont
c'est
des
simple,
sons qui... Bon, simple, ça dépend. Hein. Il y a beaucoup
ouais.
de subtilité, beaucoup de
ouais.
profondeur
ouais.
dans ces sons. Ce sont des sons qui accompagnent votre quotidien, Yaron Lislagers?
Oui, 2 fois chaque jour. Lundi et vendredi.
Ça fait 2 fois semaine,
pas
ça.
Dans le week-end.
Ah.
Pas dans le week-end.
Du lundi au vendredi.
Oui. Ouais.
Mais grâce à nous,
je fais deux fois des méditations, 2 fois chaque jour. Et ça, c'est mon soundtrack.
Ça vous permet quoi?
D'accepter le doute, quoi.
Grâce à la méditation, parce que pendant longtemps, vous avez eu du mal à accepter le doute, en fait, Yaron Lislagers.
Moi, je pense que le doute est vraiment, c'est radical, hein. C'est quelque chose.
Doute, c'est radical.
Le doute, c'est radical. On parle.
Il fait sourire André Kourkov. Vous voulez réagir, André Kourkov?
Ah non, j'aime cette formulation.
on l'a noté et on la retient.
Quelqu'un a radicalement douté les choses.
Ouais. Mm. Ouais, ouais.
C'est...
Ça demande d'énergie. C'est pas simple. C'est quelque chose qu'on dit. Ah oui, mais c'est important. Le doute, c'est important. Mais
on le dit beaucoup aujourd'hui.
Mais c'est pas si simple d'accepter.
Mais donc, peut-être que la méditation peut nous y aider. En tout cas, c'est le cas pour vous. Voilà pour vos selfies sonores. Et on va enchaîner maintenant avec quelques sons de l'actualité. Et d'abord, les 75 ans de l'OTAN, le ministre ukrainien des Affaires étrangères était cette semaine à Bruxelles.
Je suis venu transmettre des paroles de félicitations à l'alliance militaire la plus puissante et la plus ancienne de l'histoire mondiale. Merci pour vos efforts personnels et votre approche prospective en matière d'initiative sur la manière d'assurer un financement et un soutien durable à l'Ukraine.
La guerre qui se poursuit en Ukraine comme à Gaza, désormais, même des humanitaires y perdent la vie.
Les humanitaires et les civils ne devraient jamais payer les conséquences de la guerre. C'est un principe fondamental de l'humanité. Ce n'est plus une guerre contre le terrorisme aujourd'hui. C'est une guerre contre l'humanité elle-même.
Et pendant ce temps, la colère gronde en Israël.
Nous disons donc que ce gouvernement ne peut pas continuer, qu'il ne peut pas être celui qui va arranger les choses. Ce gouvernement doit partir tout de suite et nous devons aller aux élections.
Le génocide des Tutsis au Rwanda, 30 ans plus tard.
J'ai pu pardonner d'eux qui sont venus chez moi me demander pardon.
Celui qui a tué votre famille, vous le connaissez?
Oui, je l'ai vu.
Et lui, vous lui avez pardonné?
Oui, il m'a demandé pardon. Maintenant, c'est mon ami.
C'est votre ami maintenant?
Oui, c'est mon ami. Bon, je suis chrétien. Je prie.
Enfin, ça fait 30 ans que l'auteur de cette puissante mélodie nous a quittés. Début avril 1993, la vie de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, s'arrêtait et la légende commençait. Voilà pour ces quelques échos de l'actualité. Nous en venons à votre temps fort de l'actu. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ces derniers jours? Qu'avez-vous décidé de pointer? Et c'est d'abord Juliette qui répond.
Eh ben moi, c'est plutôt un appel que je voulais lancer par rapport à tout ce qu'on entend. C'est vraiment l'importance, dans 2 mois, de voter aux élections européennes. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais 70% des lois qui sont appliquées chez nous sont décidées au niveau européen. Donc il ne faut pas qu'on loupe ça. Il faut s'impliquer, les jeunes, les moins jeunes. Et c'est très, très important pour pouvoir décider aussi notre positionnement face à la guerre, face à l'Ukraine, face à tout ce qui se passe. On doit aller voter.
Yaron Olislager, ça.
Juste là que d'être un spectateur... des guerres, en fait, quand j'entends ça. C'est, nous sommes des spectateurs et parmi nous, il y a aussi des voyeurs, mais je suis un spectateur et j'ai pas de pouvoir. C'est ça.
André Gourcoff.
Pas de pouvoir de changer les choses. Juste être.
Pouvoir juste de citoyen.
C'est ça.
André Gourcoff.
Oui, peut-être la nouvelle la plus positive, c'est la présence du stand ukrainien la première fois à la foire de Bruxelles ici.
Ah, voilà.
Et présentation aujourd'hui ou demain d'une des meilleures poètes ukrainiennes, Lyubov Yakimchuk, qui est aussi personne déplacée en Ukraine. Mais bien sûr, les nouvelles de l'île de France, de l'île de nouvelles d'Ukraine, parce que chaque matin, je regarde, et pendant la nuit aussi, les nouvelles, qu'est-ce qu'il passe, et chaque nuit je vois, chaque matin, combien de gens ont été tués par les missiles et mines russes dans les régions différentes. Et il y a quelques jours, un autre poète était tué par les missiles à Mykolaïv. Et comme ça, c'est aussi une nouvelle très triste parce qu'il n'y a plus que 40 écrivains, poètes et éditeurs sont les victimes de l'agression russe. Oui.
Et nous restons précisément en Ukraine avec vous, André Gourcoff.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.
La Russie a officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine.
Des explosions en pleine nuit. Des bombardements massifs ont aussi eu lieu à l'ouest du pays.
Le président Poutine a rapporté la guerre en Europe.
Le 24 février 2022, je n'ai presque rien écrit, réveillé par le fracas des missiles russes qui s'abattaient sur Kiev. Je suis resté près d'une heure, planté devant la fenêtre de mon appartement, à contempler les rues désertes, conscient que la guerre avait commencé, mais encore incapable d'accepter cette nouvelle réalité. C'est ce que vous écrivez, André Gourcoff, en ouverture de votre journal d'une invasion publié l'an dernier. Depuis plus de 2 ans, vous parcourez le monde, je le disais, pour alerter, pour informer, pour témoigner. Vous écrivez des textes aussi à propos de cette guerre pour les grands médias internationaux. Est-ce que vous êtes toujours aujourd'hui, André Gourcoff, incapable d'écrire un seul mot de fiction ?
Je peux écrire quelques mots de fiction. En fait, l'été dernier, j'ai réussi à ajouter 30 pages au roman, au troisième roman de cette série.
La trilogie sur Kiev.
Mais après, c'était... encore une fois arrêté et j'espère que l'été prochain je peux me cacher dans mon village si je peux, je ne sais pas parce que c'est pas possible de prévoir qu'est-ce qui va passer demain, mais en tout cas c'est toujours difficile, presque pas possible.
Pourquoi?
Parce que la réalité est beaucoup plus tragique que la fiction. Et parce que pour écrire et lire la fiction, il faut être dans un état stable. Il faut être capable de voyager dans l'imagination, dans les pensées. Et je suis attaché tout le temps à la réalité ukrainienne.
Parce que vous diriez aussi que votre devoir aujourd'hui en tant qu'écrivain, c'est d'écrire sur le présent de cette guerre, André
Kourchev ? Oui, c'est le devoir de chaque écrivain ukrainien. Et en fait, il y a peut-être deux, trois écrivains qui vraiment écrivent mais aujourd'hui la fiction. Tous les autres écrivent non-fiction, les reportages, les essais, les articles.
En fait, la guerre vous a transformé en journaliste, en quelque sorte, André Kourchev ?
Oui, c'est vrai.
La guerre et les livres sont incompatibles, c'est ce que vous écrivez dans votre journal le 30 mars 2022. Les Ukrainiens sont éloignés des livres depuis presque 2 ans, en fait ?
C'est pas vraiment ça, parce que l'année dernière, il y avait 12 librairies nouvelles ouvertes à Kiev.
D'accord.
C'est-à-dire les gens achètent des livres, je ne sais pas s'ils lisent. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, les livres qui sont vendus le mieux, c'est non-fiction, c'est la littérature des écrivains classiques qui étaient tués par le régime soviétique dans les années 1937-38, et c'est les livres sur l'histoire d'Ukraine. Et en fait, très souvent, les soldats de la ligne de front demandent ses amis à l'envoyer les livres sur l'histoire d'Ukraine.
Des librairies qui ouvrent aujourd'hui en Ukraine, vous diriez qu'il y a une sorte de résistance culturelle qui s'organise en
oui,
quelque sorte, André Kourchev ?
Sans doute. Sans doute.
Mot-clé de ce matin, André Kourchev. Ça se passe comment au niveau du reste du monde culturel, en dehors de la littérature ? Est-ce qu'il y a aussi des événements qui s'organisent depuis 2 ans ?
Il y a beaucoup des événements. Bien sûr, c'est presque impossible d'acheter les billets pour les théâtres aujourd'hui. Ils sont vendus 3-4 semaines en avance.
C'est ça.
Au début de la guerre, les gens s'est cachés dans les théâtres des réalités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces de théâtre sur la guerre, sur les réfugiés. Et comme ça, la guerre est présente partout et plutôt dans la culture ukrainienne.
Après la guerre, des livres raconteront son histoire. C'est ce que vous dites aussi à un moment dans votre journal d'invasion. Vous consacrerez, vous, peut-être un jour, un roman à cette guerre ?
Peut-être non. Peut-être non, parce que j'ai peur qu'après la guerre, on va avoir 20 ans de littérature sur la guerre. Et aussi aujourd'hui, la majorité des livres nouveaux sont sur la guerre. Et je ne veux pas la répétition des situations après la guerre deuxième mondiale, quand tous les enfants soviétiques devaient lire pendant 20 ans les livres, les romans sur la guerre, sur les héros soviétiques et tout ça. Et il faut normaliser la vie culturelle, il faut que tous les genres sont présents.
Est-ce que vous avez le sentiment de résister avec les mots, avec vos textes ?
Oui. Pourquoi pas, oui. Je pense. En fait, je crois que tous les textes des écrivains ukrainiens, des poètes ukrainiens, et les poètes sont maintenant beaucoup plus importants que les romanciers.
Pourquoi ?
En Ukraine. Parce que la poésie passe une énergie,
une sensation radicale,
sensation très vite. C'est le message exprès.
Immédiat.
Immédiat. Les réactions viennent immédiat. Et il y a beaucoup de soirées poétiques aujourd'hui en Ukraine où il y a 200-300 personnes qui viennent, qui peuvent attendre la poésie pendant 2-3 heures. C'est comme révitalisation.
On se réénergise à coups de poème, en quelque sorte, oui. Dans votre pays aujourd'hui, André Kourchev. Peut-être que vous allez me répondre, je ne sais pas, je doute, Yaron Elislagers, mais je vous pose quand même la question. Est-ce qu'on résiste avec des mots, avec des livres ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, je pense. Non,
pas de
non,
doute, là.
Ça, sans doute. non, je pense que contre la guerre, contre l'aliénation aussi, il y a la résistance, et la résistance, ce sont des mots, ce sont des histoires, ce sont des poèmes. Ouais. Ça, sans doute. Ouais.
Ah, et vous dites d'ailleurs que les livres, c'est un instrument de libération.
De libération, ça, je sais, d'émancipation. Émancipation, oui. Libération, ça. La liberté, c'est une sorte de rêve impossible, mais.
Vous ne vous sentez pas libre ?
Parfois.
Parfois.
Parfois, pas tout le temps. Et aussi la liberté, c'est une idée radicale. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de permanent, mais c'est impossible d'être libre tout le temps.
Les livres, c'est très important pour vous deux. André Kourkov, vous dites, je ne peux pas imaginer une vie sans livres. Une vie sans livres, à vos yeux, c'est une vie qui n'a pas de sens, en fait, André Kourkov?
Oui.
Ah oui.
J'ai une bibliothèque immense, placée dans trois appartements et la maison des villages. Et c'est parfois, je pense que je reviens chez moi, c'est comme je reviens chez mes livres.
Chez les amis.
C'est chez les amis, mais c'est aussi une partie de ma famille. Et mes enfants savent quels livres sont plus importants pour moi que les autres.
Ils sont vivants, vos livres ?
Il y a des livres vivants. Il y a des livres qui peuvent parler aussi s'ils sont fermés.
Jeronimus Lagers, vous partagez ce point de
vue ? Oui, pour moi, les livres sont aussi... excusez-moi. Ce sont aussi des fantômes, des amis, des rêves aussi. C'est une sorte d'intimité d'avoir une bibliothèque. C'est vraiment intime. C'est une sorte de réflexion sur ta propre personnalité, ta propre caractère, ta façon de penser. Ouais.
Je vais maintenant vous faire réagir, André Kourkov, à des propos que vous avez tenus dans la presse en 2022, parce que j'aimerais savoir si ces propos sont, oui ou non, toujours d'actualité. Vous disiez, en mai 2022, au journal Le Soir, le sentiment dominant en Ukraine, c'est la colère. Et en avril 2024, André Kourkov.
C'est toujours la colère, c'est aussi la fatigue. Il y a un peu de dépression, il y a des doutes, parce que, bien sûr, 2 ans de la guerre, 2 ans des bombardements, je ne sais pas combien des mille des gens tués, tout ça change la société. Et bien sûr, la société intellectuelle est très radicalisée. Comme ça... Oui, c'est la colère, mais...
Plus la fatigue, disiez-vous.
Non, pas plus. Je crois que la colère est beaucoup plus forte chez nous que la fatigue.
Vous disiez à Libération, en août 2022, pour les Ukrainiens, la liberté et l'indépendance sont plus importantes que la vie. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui.
Après autant de morts?
Oui, mais c'est la différence... principal entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne. Pour les Russes, la stabilité est plus importante que la liberté. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité à partir du XVIe siècle, à partir du temps quand l'Ukraine était indépendante et les Ukrainiens se choisissent le chef d'État qui s'appelait Hetman. Comme ça, ça reste toujours.
Donc ça fait plusieurs siècles que l'Ukraine rêve en fait d'indépendance.
Oui, oui. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre nouvelle. C'est la continuation d'une guerre qui commençait au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle.
La liberté, qu'est-ce que c'est pour vous, André Kourkov ?
Liberté, c'est m'exprimer, penser librement tout ce que je veux penser, dire ce que je pense, mais bouger où je veux. Vivre sans limite idéologique, sans contrôle, sans censure.
Selon vous, l'avenir de l'Ukraine dépendrait en fait de la date de décès de Vladimir Poutine. C'est ce que vous avez dit récemment dans la presse. Alors j'ai été vérifié, en fait il n'est pas si vieux, il a 71 ans. Vous voulez dire par là qu'avec lui en fait il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas de dialogue possible?
Non. Je crois, non. C'est un jour avant l'agression, le 24 février 2022, il a dit que la Russie ne va pas agresser l'Ukraine. Est-ce qu'on peut avoir des négociations avec quelqu'un qui dit des mensonges tout le temps?
Votre réponse, c'est non, manifestement, André Kourkov. La guerre qui se poursuit... Et en même temps, vous observez que le monde ukrainien est en train de bouger. Que par exemple, il se passe pas mal de choses en ce moment à l'ouest du pays. L'ouest qui est en train de devenir une sorte de pôle économique.
Oui, c'est vrai. C'est la guerre a changé beaucoup de choses, changé les principes géopolitiques. L'ouest du pays était toujours mal peuplé et c'était la zone agricole, pas industrielle. Aujourd'hui, beaucoup des usines, des fabriques sont construites là-bas ou s'est déménagé de l'est du pays, du sud du pays là-bas. Et comme ça, l'Ukraine sera un pays complètement différent après la guerre.
L'avenir de l'Ukraine se passe d'abord à l'ouest ?
L'avenir, non. C'est partout. C'est le centre, c'est l'ouest, c'est le sud. Je ne pense pas que l'ouest va devenir beaucoup plus important que le centre de l'est d'Ukraine.
La guerre, à vous entendre, elle risque de durer s'il faut attendre la mort de Poutine ?
Oui. Oui, ça va durer. Je ne sais pas combien de temps. Et je pense que beaucoup des Ukrainiens ont accepté ça.
Est-ce que les Occidentaux en font assez pour soutenir l'Ukraine, à vos yeux, Andrei Kourkov ?
Oui, les politiciens d'Europe qui comprennent les conséquences si l'Ukraine perd la guerre, ils sont prêts de continuer aider l'Ukraine. Les gens qui essayent à instrumentaliser la guerre dans les combats politiques dans ces pays, bien sûr, ils font beaucoup de mal pour l'Ukraine. Parce que comme en Slovaquie, en Hongrie, il y a des politiciens qui disent qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine, il faut se concentrer sur les problèmes des dents dans le pays. Et c'est un discours qui va être répété aussi dans les États européens d'Ouest d'Europe.
Comprendre les conséquences de cette guerre, c'est comprendre quoi en fait, Andrei Kourkov ? Une extension possible ?
Oui, bien sûr, parce que si l'Ukraine perd la guerre, les prochains pays seront les victimes des Russies, c'est la Moldavie, la Pologne, la Lituanie. Et en fait, les politiciens russes ont annoncé déjà que le bout prochain, c'est le couloir de Biélorussie, qui pratiquement n'existe plus comme un pays indépendant, jusqu'à Kaliningrad, à travers Lituanie et Pologne.
Vous avez commencé à écrire une trilogie sur Kiev il y a quelques années. C'était avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Les deux premiers tomes ont été publiés. Le troisième arrive bientôt, puisque vous avez sans doute terminé de l'écrire cet été, si tout va bien.
J'espère.
On l'espère en tout cas. Nous sommes en 1919, c'est l'instabilité. Kiev est tombée aux mains des bolcheviks. Et je vous ai entendu dire que les Occidentaux ne connaissent pas assez, pas suffisamment, l'histoire de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez, Andrei Kourkov, que c'est en s'appuyant sur l'histoire ukrainienne que l'on peut saisir au mieux ce qui se joue aujourd'hui, en fait ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Et en fait, il y a des livres magnifiques sur l'histoire d'Ukraine, écrits par les professeurs américains, par les auteurs non-fiction d'Europe, c'est comme Timothy Snyder, Anne Applebaum, Sergei Plokhy, Martin Pollack. C'est-à-dire, il faut comprendre, on peut comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on sait l'histoire d'Ukraine.
Quel lien, par exemple, entre 1919 et 2022 ?
Oui, après la chute de l'Empire russe, en 1917, l'Ukraine annonçait son indépendance. Et tout de suite, les bolcheviks attaquaient Kiev du même côté que l'armée russe en février 2022. C'était la guerre. En Russie, c'était la guerre civile. En Ukraine, c'était deux guerres avec 6-7 armées qui participaient. Parmi eux, 3 armées ukrainiennes. C'était la guerre civil russe, mais c'était la guerre pour l'indépendance d'Ukraine, parce que le but des Russies était à contrôler toute l'Ukraine et transformer l'Ukraine dans une république soviétique. Ils ont réussi en 1921, après 4 tentatives d'occuper Kiev.
L'histoire, c'est très important pour vous aussi, Yaron Olislagers. Vous dites d'ailleurs qu'on est beaucoup trop aujourd'hui rivé, accroché au présent et qu'on se détourne de l'histoire. Pourquoi est-ce si fondamental à vos yeux, Yaron Olislagers ?
Si on ne connaît pas notre propre histoire, on a des problèmes, on a des... Je pense aussi que c'est une perte intellectuelle. C'est une cause aussi pour ne pas comprendre notre temps. Si nous sommes ici en Belgique, mais en Europe, nous sommes vraiment obsédés par le XXe siècle, surtout les deux guerres, en Belgique les deux, aux Pays-Bas, juste la Deuxième Guerre mondiale, mais dans notre pays, c'est les deux. Mais on ne sait rien du XIXe siècle.
Et encore moins du XVIe siècle dont vous parlez dans vos textes, dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'on a besoin, nous les êtres humains d'aujourd'hui, de liens, de contacts presque même charnels avec les mondes d'avant ?
Oui, je pense que c'est nécessaire. En tout cas, on n'a pas des liens maintenant avec le passé. On n'a pas. Nous sommes dans une sorte de prison du présent.
Dernière question pour vous, André Kourkov, avant de clôturer cette première partie. J'ai lu que vous avez été jadis gardien de prison à Odessa. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience quand même singulière ?
En fait, c'était mon service militaire.
D'accord.
Et dire les choses les plus importantes. J'ai commencé à écrire livres pour les enfants dans cette prison.
D'accord.
C'était comme un essai d'échapper à la réalité. Mais j'ai appris beaucoup sur la psychologie des gens. J'ai appris beaucoup sur le système soviétique. Et bien sûr, c'était, je pense que c'était très utile pour... moi, comme un écrivain.
C'est ça, ça a ouvert la voie vers votre carrière, vers votre œuvre naissante.
Et c'était la prison près de la mer, avec beaucoup de sons des mouettes aussi.
Évidemment, à lire, tout est lié évidemment, à lire les deux premiers tomes de votre trilogie consacrée à Kiev en 1919, Le cœur de Kiev, c'est le titre du tome 2, et à lire aussi votre journal d'une invasion. Vous restez bien sûr avec nous, André Kourkov.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Et n'hésitez surtout pas à venir nous saluer ici à la Foire du Livre de Bruxelles où nous sommes en direct ce matin. Nos invités, l'écrivain ukrainien André Kourkov et l'écrivain belge Jeroen Olieslagers. Avec vous, Jeroen, nous serons dans quelques minutes en plein 16e siècle. Mais d'abord, c'est en toutes lettres et c'est avec vous cette semaine, Juliette Goudot. On vous écoute.
Cher Chantal Ackerman, vous n'êtes plus là et je vous écris sans savoir si c'est à votre absence que je m'adresse ou à la part secrète que votre cinéma a ouvert en nous. Cette part cachée que vous donnez à voir dans vos films, dans votre œuvre écrite et parlée, pour reprendre le titre d'une superbe monographie qui vous est consacrée aux éditions L'Arachnéen, dans votre œuvre filmée qu'il nous est permis de traverser en un seul travelling, comme le titre l'exposition essentielle que vous consacre en ce moment le Palais des Beaux-Arts et Cinémathèque à Bruxelles. On y entre avec Saute ma ville, votre premier court-métrage réalisé à 18 ans, après avoir découvert Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Une jeune fille chantonne tranquillement dans sa cuisine avant de se faire sauter le caisson sur la gazinière de l'appartement. Quelque chose qui explose, c'était votre entrée en cinéma, Chantal Ackerman. Féministe, queer, lesbienne, née à Bruxelles en 1950, dans une famille juive polonaise revenue de la destruction, vous ne voulez aucune définition, aucune étiquette, aucune stigmatisation pour dire qui vous êtes. Lorsqu'on vous renvoie à l'homosexualité de Je tue il, elle, réalisée à 23 ans de retour de New York, l'histoire d'une jeune femme qui passe du temps avec un camionneur avant de se contorsionner d'amour pour une autre fille, vous répondez: dire que Julie est homosexuelle serait l'enfermer là-dedans. Elle a un rapport homosexuel, point. Plus tard, en parlant d'amour et de cinéma, je cite « L'amour, c'est violent. On s'attendrait à ce qu'on fasse passer le désir entre deux femmes par une scène explicative qui le justifierait, alors qu'entre un homme et une femme, il n'y a pas de justification nécessaire. La question ne serait pas posée. » Fermez les guillemets. Vos personnages échappent à tout jeu social. Ce que vous transmettez, Chantal Ackerman, ce sont des images, des villes traversées, des errances, des visages. Celui de Jeanne Dillman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles. Chef-d'œuvre réalisé à 25 ans. Sacré meilleur film de tous les temps pour les 10 ans à venir et qui prend pour sujet une femme au foyer. Delphine Seyrig, hiératique et quotidienne, préparant une escalope de veau ou pelant des pommes de terre, faisant l'amour pour de l'argent ou servant la soupe à son fils de manière tout aussi égale. Un film pour dire l'ironie du destin féminin, l'enfermement domestique décuplé récemment par le confinement. Votre cinéma est peuplé de gares, de nuits, de fragments d'hommes et de femmes qui se frôlent, se désirent et se quittent dans toute une nuit, prenant la forme d'Aurore Clément ou d'inconnus dont les talons claquent sur les pavés. À propos des rendez-vous d'Anna, vous dites, je vous cite, « ça n'est pas un voyage romantique ni de formation, ni d'initiation, c'est le voyage d'une exilée, d'une nomade, qui ne possède rien de l'espace qu'elle traverse ». Dans Golden 80s, comédie musicale à facettes, qui reproduit la Galerie Louise et se moque du capitalisme, il y a encore Delphine Seyrig, plus tard des déserts, des migrants, des lits où l'on paresse. Et puis Circé Le Thème à 15 ans dans Portrait d'une jeune fille à Bruxelles de la fin des années 60, projeté, je vous cite, sur le marché de l'amour et qui a envie que tout explose. Alors Chantal Akerman, je crois que c'est depuis cet endroit que je vous écris, depuis cette explosion intime qui reconnecte à soi, à ce qu'il y a de plus enfoui, au rire de nos mères et aussi à leur désespoir, à nos images primitives. Et c'est à cela que je retourne, à cette errance akermanienne que vous nous donnez à voir et qui nous permet, je crois, de traverser nos vies en créatrice. Alors à vous et à bientôt, Juliette.
Merci à vous, Juliette Goudot. Vous êtes des fans de Chantal Akerman, Yaron Elislager, Sandré Kourkov?
Je ne les connais pas.
Eh bien, à découvrir. Il faut revenir ou profiter de votre présence à Bruxelles, justement, pour voir cette exposition à Beaux-Arts et puis rétrospective aussi à la Cinémathèque en ce moment. Votre lettre, Juliette, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Et nous sommes, comme promis, au XVIe siècle, avec vous, Jeroen Elislager. Tout à Anvers commence au bord de l'eau, cette force fluide de la nature au large méandre, avec de la prestance à revendre, à gratifier la ville d'une liaison directe avec les océans, gardant sous sa surface ses caprices et sa violence impitoyable. Cet extrait de La femme sauvage, votre nouveau roman, Jeroen Elislager, c'est le deuxième traduit en français. Nous sommes au XVIe siècle, depuis Amsterdam, Beer, votre personnage principal, revient sur sa vie, un homme qui regarde en arrière, se prend toujours pour un sage, écrivez-vous. Et commençons justement par regarder en arrière, du côté du passé de votre propre vie, Jeroen Elislager. Que s'est-il passé à vos 8 ans quand vous avez découvert, grâce à votre père, la peinture de Bruegel?
La première fois que j'ai vu Margot Laffel, c'était une photo de la peinture dans un livre que mon père m'a montré. J'avais 8 ans, 9 ans.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti?
Pour moi, c'est exceptionnel parce que je me souviens. Je me souviens l'émotion. Et l'émotion, c'était une émotion maintenant impossible. J'avais l'émotion que Bruegel était un contemporain pour moi. C'était quelqu'un...
Que vous partagiez en quelque sorte la même époque?
Oui. Une sorte d'aventure, en fait.
Aventure commune.
Mais c'est à cause du Bob et Bobette, je pense. C'est à cause du Willy van der Steen. Mmh. À cet âge, j'ai partagé un monde avec Bruegel. Et après, le mystère est là. Qu'on a 18 ans, Bruegel devient une énigme, avec plein de secrets. Mmh. Mais avant, c'était vraiment clair pour moi.
Ouais, une émotion qui vous poursuit depuis vos 8 ans, en fait, Jeroen Elislager. C'est ce mystère que vous tentez de percer aussi au travers de vos livres, puisque Bruegel est l'un des personnages de ce nouveau roman. Je reviens un instant à l'Escaut, ce fameux fleuve. Le fleuve a donné, écrivez-vous, du travail à cette ville, l'a rendue riche et a engraissé nombre de ses habitants. Est-ce vrai que la prospérité crée l'union? Question posée dans votre texte. Et on se rend compte en fait que la prospérité, elle n'amène pas forcément la paix, Jeroen Elislager. Hier comme aujourd'hui.
Oui, je pense que juste l'idée d'un union est vraiment importante et en Anvers pendant ce siècle, pendant cette période, il y a aussi, ça crée aussi des monstres ou des fantômes ou des anges, je sais pas, une sorte de soif de la liberté. Je pense que la soif de la liberté est l'union. ils sont en compétition en Anvers pendant ce siècle.
Et la prospérité?
La prospérité est devenue vraiment importante parce qu'il y a une sorte... C'est aussi un acte d'unification, en fait. La prospérité donne... il y a une sorte de matérialisation d'un rêve d'être dans une ville unifiée par le business.
Mais le problème, c'est qu'on s'habitue à la prospérité et oui. Que là, peut-être, c'est ce que vous laissez entendre, en tout cas dans votre oui. texte, on s'y habitue à cette prospérité et ça mène parfois vers le pire.
Oui, la mémoire ne fonctionne plus. L'ESCO n'est pas si important dans les têtes et tout, de tous ces marchands. Ils disent, oui, le business, tout va bien, mais maintenant... je veux être représenté, je veux avoir mes propres temples, mais je suis un calviniste, je peux paraître représenté aux grandes places avec le bourgmestre et tout ça. Et ça donne, au début, ça donne des frictions, et après ça, c'est un prélude pour la guerre aussi. Mais je comprends aussi cette soif pour la liberté. Ça c'est il faut nuancer tout le temps, je pense.
Mais c'est déjà le capitalisme, en fait.
Oui,
c'est très contemporain, ce que vous
racontez. Et ça résonne très fort avec aujourd'hui.
Il y a des Anversois maintenant aujourd'hui qui disent les Anversois ont inventé le capitalisme. Ouais. Mais il faut savoir, Anvers était le New York de Renaissance du Nord. Alors cette arrogance était née pendant cette période, je pense. Ouais. Ouais. Mais aussi le capitalisme, ça veut dire aussi les grandes différences entre les riches et les pauvres. Ça aussi. Et ça c'est aussi présent dans mon roman.
Dans votre roman, il est question également de fraternité, d'amitié. Hébert, il considère l'amitié comme une traîtresse. Il dit aussi que la fraternité, c'est une belle chose, mais qu'au plus profond de lui, l'homme, en fait, est dominé par un grand besoin d'être trompé. Voilà qui rejoint également la phrase que vous avez placée en ouverture, en exergue, comme on dit de votre roman. Le monde veut être trompé.
Ouais.
Ah ouais, pas de doute là-dessus.
Mundus vult decipit, ça c'est l'expression en latin. Ouais.
Trompé par qui? Trompé par quoi?
C'est plus que shakespearien. The world wants to be fooled. Je pense que pour moi comme écrivain, ça c'est le grand mystère de mon roman. Pourquoi? Je pose la question, mais je ne sais pas si toutes les réponses sont là. C'est quelque chose, c'est aussi pour les lecteurs pour décider, pour trouver les réponses. Parce que pour moi aussi, c'est plutôt délicat.
Nous aurions besoin de mensonges?
Ah oui, mais tout le monde. Tout le monde, pour survivre, on a besoin de mensonges. On a besoin de mensonges. Je pense que dans des cas, il y a des contextes où l'amour est un mensonge nécessaire.
Ah oui.
On a besoin. On a besoin.
C'est pour ça que vous avez envie de retourner à la sauvagerie, finalement. Il n'y a que ça qui ne ment pas.
La sauvagerie, dans mon livre, mais aussi en Anvers pendant cette période, c'est une sorte de nostalgie. C'est Adam et Ève païennes, en fait. La femme sauvage, l'homme sauvage, c'est un retour, c'est une nostalgie pour un monde moins complexe. Et ça, déjà, en Anvers, on a ça. Il y a cette soif pour une sorte de liberté, qu'on n'a pas de lien, qu'on n'a pas de business, qu'on a juste l'amour entre
juste
deux
l'amour
personnes.
Ouais. Juste la liberté. C'est une époque démente, dites-vous, c'est ce que votre personnage dit à propos de ce milieu du XVIe siècle. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'aujourd'hui. Juliette, tout à l'heure, rappelait que bientôt, nous irons voter. Triple scrutin, on le sait, en Belgique, il y a les européennes, mais aussi les élections fédérales et régionales. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez face à la montée de l'extrême droite au nord du pays? Wow. Alors que Votre grand-père était...
un collaborateur, un nazi, en fait.
Voilà, je vous laisse choisir les mots.
C'est pas simple. On vit maintenant, on vit dans le luxe. Et on...
Dans le luxe, dans la
dans
prospérité.
Le luxe, dans la prospérité. Et ça donne une certaine arrogance à notre vie, à notre façon de vivre dans, en Belgique, mais aussi en Europe. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi cette sens de d'avoir tout, cette supériorité. Et je pense que la supériorité, c'est comme un fantôme maintenant dans notre société, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, j'adore extrême droite parce qu'il me donne une sorte de liberté, en fait. Maintenant, je dois et je peux dire tout. Je suis un raciste, je peux dire ça. Je suis contre le gouvernement, je peux dire ça. Oui, c'est la démocratie.
C'est une version de la liberté.
C'est une version de la liberté, mais, et je dis ça aussi dans mon roman, la liberté a une cause d'être si il y a une sorte d'une union, en fait. On doit avoir les deux. On doit être unifié pour être libre aussi. Parce que si les deux sont pas en balance, on a des problèmes. Et maintenant, on a des problèmes.
Le Vlaams Belang, qui dans les derniers sondages frôle les 30%, ce ne sont que des sondages, on le rappelle. Ça vous inquiète quand même?
Oui, ça m'inquiète, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on doit confronter, on doit nous confronter avec ça, avec cette 30% ou 25%. On doit parler, on doit pas chercher une sorte de compromis, mais on a besoin d'une conversation profonde.
Conversation un débat, avec l'extrême droite?
Je pense que oui. On doit adresser pas les politiciens parce que ce sont des traîtres. Mais les jeunes.
Les politiciens d'extrême droite.
Oui, mais ce sont vraiment des traîtres.
Vous parlez des membres du Vlaams Belang.
Je parle de Winter et je parle des gens qui acceptent l'argent du Chine, la Russie.
Mais donc, ce qu'il faut, c'est parler avec les citoyens qui souhaitent aller ou qui sont déjà du côté de l'extrême droite.
Oui, je pense que ça, c'est nécessaire.
Les écrivains doivent leur parler?
Peut-être. C'est pas sûr. C'est pas facile, ce débat.
Non.
C'est pas facile. Il faut adresser des problèmes, mais il faut aussi adresser une sorte de crise d'identité, une sorte aliénation aussi. Il faut adresser une sorte aussi de technocratie qui est aussi vraiment présent et ça donne de l'aliénation à presque tout le monde. Ce sont les problèmes qu'on a dans notre pays et on doit parler de ce sujet.
Et il reste peu de temps puisque le mois de juin approche à grands pas. 10h52 sur la première. L'amour, c'est l'un des thèmes de cette édition de la Foire du Livre. Et le narrateur de votre roman parle des femmes qu'il a aimées et de son désir profond quand il est avec une femme. C'était, je cite, le désir de ce plus qui transcende tout, le désir d'une force qu'on partage à deux, de cette union qui s'appelle le grand amour dans le cœur de tout un chacun. Est-ce que vous partagez sa vision? Et ce sera ma dernière question pour tous les deux. Qu'est-ce que c'est pour vous, et je vous vois sourire, Jeroen-Olys Lagers, le grand amour?
Ouais,
Il nous reste peu de temps.
C'est une question simple, la réponse est complexe. J'ai pas beaucoup de temps pour vraiment répondre, mais je pense
en
que l'amour, c'est une énergie profonde qu'on a besoin.
André Kourkov, c'est quoi le grand amour pour vous?
C'est la vie dans ma famille. C'est l'existence heureuse d'une famille avec des enfants, avec l'avenir, avec une histoire dépassée. C'est-à-dire, c'est la stabilité émotionnelle,
familial.
C'est foisonnant et passionnant, la femme sauvage de Jeroen Olieslagers. Vous restez tous les deux avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Très heureux d'ouvrir le week-end à vos côtés ici en direct et en public à la Foire du Livre de Bruxelles. La première y a planté son tout beau studio. Et à présent, nos invités pour quelques minutes, trois minutes encore, eh bien, ils vous offrent des sons qui les font frissonner. Le son frisson d'André Kourkov, c'est celui-ci. Vous adorez décidément les oiseaux, André Kourkov, les mouettes tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est le chant de la tourterelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, André Kourkov ?
C'est tranquillité de la nature, la nature même, l'existence en harmonie avec le monde naturel.
Et vous, Jeroen Olieslagers, vous frissonnez à l'écoute de ça. Qu'est-ce que c'est beau, c'est un extrait des Nymphes des Bois composé par Josquin Després et interprété par l'ensemble Grain de la Voix. Ça y est, on peut vérifier, vous avez la chair de poule, Jeroen Olieslagers.
Oui,
vous voyez ça sur les bras de Jeroen, André Kourkov.
Oui.
Ça date du XVIe siècle aussi.
Oui.
Interprété par des Flamands.
Oui, mais j'adore. Non, pas forcément. Bjorn est le leader de Grain de la Voix, c'est un Flamand.
D'accord.
C'est un Flamand en Varsovie. Mais les nationalités de ces chanteurs, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Et j'adore Grain de la Voix parce que ça donne, on entend toutes ces personnalités dans une unité que j'adore.
Alors, on a écouté cette belle composition. J'aimerais vous faire encore écouter, mais de la musique que nous conseille Juliette dans un tout autre style. En quelques secondes, Juliette, est-ce que vous vouliez nous recommander pour ce week-end ?
Oui, c'est une reprise de Dolly Parton par Beyoncé et c'était pour signaler la sortie de l'album Country de la chanteuse américaine. C'est une manière pour elle de réinventer l'Americana et de pénétrer aussi dans un territoire qui est normalement très conservateur, celui de la musique country. C'est aussi pour elle une manière peut-être de donner une couleur pour les élections américaines qui arrivent aussi.
Évidemment, et qui auront peut-être
Cowboy
aussi
Carter,
des conséquences sur ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Merci beaucoup Jeroen Olieslagers et merci beaucoup André Kourkov d'avoir été avec nous. Merci également à vous Juliette.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.